franceinter.com. La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
L'ONU a décrété 2011, année internationale des forêts. Notre invité aujourd'hui, Martine Chalvet, bonjour.
Bonjour.
Qui publie aux éditions du Seuil une histoire des forêts. Alors on ne va pas parcourir avec vous le monde entier, arpenter seulement la forêt française, et encore la forêt française depuis le XVIe siècle. C'est un domaine déjà suffisamment vaste, comme le disait le président Valéry Giscard d'Estaing.
La forêt française, très mal connue des Français, représente à elle seule 50% du patrimoine forestier européen. Et il faut à tout prix conserver et utiliser cet avantage inestimable. Contrairement à ce que certains croient, écrivent ou craignent, la forêt gagne du terrain en France. Mais elle n'a pas toujours encore le développement ou la protection dont elle doit bénéficier.
Valéry Giscard d'Estaing, en 1977, il le disait bien, le président, la France, Martine Chalvet, est beaucoup plus chevelue que les Français ne l'imaginent.
Valéry Giscard d'Estaing va à l'encontre des idées reçues, puisque la plupart des Français pensent que les surfaces forestières sont en régression. Et depuis la fin du 19e siècle, au contraire, la superficie forestière a doublé. En 2005, vous avez même un quart de la surface de l'Hexagone qui est couverte de forêts. Alors cette extension est due à des changements dans le monde rural, avec une hausse de la productivité. On a diminué les surfaces agricoles utiles. Avec l'exode rural aussi, la pression sur les bois a diminué. Changement également des usages énergétiques. On n'utilise plus de bois de chauffe. Changement aussi des modes de construction, des besoins de l'industrie.
Mais si vous voulez bien, avant de parler des changements, on va parler de ce qui est récurrent, Martine Chalvet. Et parmi le récurrent, l'homme des bois, le coureur des bois, le boisilleur, celui qui continue de vivre, quelles que soient les époques, dissimulé à couvert.
Pourquoi les sieurs de Long vont directement au paradis? C'est parce qu'ils ont connu l'enfer sur Terre.
On parle pas beaucoup, ces gens qui vivent peut-être un enfer. Encore que la cueillette offre beaucoup plus de possibilités qu'on imagine à celui qui vit dans les bois.
Oui, dans les bois, on trouve toute une série de différents types de personnes qui viennent chercher les richesses du bois. Vous avez les paysans, vous avez les artisans, vous avez aussi ce qu'on appelle les gens du bois ou les coureurs du bois. Alors ce sont des boisilleurs, ils viennent ramasser des baies pour les teintures, du chêne pour les tanneries. Ils ramassent aussi des résines, enfin toute une série de produits dont on a complètement perdu l'usage de nos jours. Vous avez aussi des bûcherons, vous avez des scieurs de long.
C'est ce qu'on entendait à l'instant.
Voilà, alors eux, ils alimentent les charpentiers, ils alimentent la construction navale en bois.
C'est l'archéologue qui permet de connaître ces populations qui n'ont pas laissé beaucoup de traces.
Ces populations ont quand même laissé des traces, parfois dans les archives judiciaires, mais aussi sur le regard qui est projeté sur eux, en fait, puisque les coureurs des bois ont toujours eu mauvaise réputation. Et donc, souvent, ils ont provoqué des commentaires assez désagréables à leur encontre. Donc, on a cette représentation sur eux.
Alors, la forêt, c'est le lieu de la bricole. Parmi les coureurs des bois, il y a les braconniers qui ont laissé des traces, dites-vous, dans les archives judiciaires et puis aussi dans les archives littéraires, cinématographiques, dans le légendaire français.
Il s'appelait Louis. Il était braconnier.
Un lapin, ça passe toujours au même endroit. Ça fait ses crottes toujours au même endroit aussi. Alors quand t'as trouvé ça, là tu peux poser ton collet.
Vous allez pas me mettre en prison?
C'est dans sa prison, loin des amis, qu'il il a compris que la liberté peut emprisonner le jour où l'on fuit.
C'est donc toi, Rabolio.
C'est mes amis qui m'appellent comme ça.
Ouais, et comment il faut t'appeler?
Eh ben, faut pas m'appeler. Hein? Faut me foutre la paix.
Ah ben, si tu veux qu'on te foute la paix, faut respecter la loi et pas chasser des lapins sur les terres du comte.
Pour tous les bougres qui braconnent, que dans la Sologne aux bourgeois, ce n'est pas quand la lune donne qu'il faut aller au bois. Par la nuit de poids et d'angoisse, quand on rentre le carnier plein, garde au châtelain, car les juges, ces salopins, vous foutent des 6 mois à l'ombre pour 3 méchants lapins.
Le comte, le châtelain, le salopard, toujours le légendaire français Martine Chalvet. Alors si on se met au début de la période qu'on va considérer aujourd'hui, 16e, 17e, 18e siècle, qui est propriétaire? Le comte, le châtelain, ça c'est la forêt seigneuriale, mais est attaché à la forêt seigneuriale le droit de chasse, idem pour les forêts royales.
À l'époque moderne, en fait, on n'a pas encore cette séparation que nous connaissons, nous, entre les forêts domaniales, les forêts communales et les forêts privées. L'espace forestier est souvent encore un espace indivis, un espace collectif, exploité par tous les habitants du village. Mais à l'époque moderne, la forêt devient...
Quand on dit époque moderne, c'est 16e, 17e,
voilà. La forêt devient de plus en plus un capital à exploiter, un potentiel. Et les seigneurs et le roi veulent mieux encadrer l'exploitation et limiter le prélèvement de bois des paysans ou leur pâturage qui est très destructeur de bois. Donc une des solutions, ce sera justement de détruire l'organisation collective des terres en séparant les bois utilisés par les seigneurs et les bois utilisés par les paysans.
Alors les bois utilisés par les seigneurs, les propriétaires importants, n'imaginons pas qu'ils ne le soient que pour la chasse. Si on regarde ce qui se passe à Paris, il y a une dizaine de débarcadères à cette époque. Il y a des centaines de trains de bois qui descendent par exemple de Bourgogne avec du bois de chauffe, du bois d'œuvre.
Oui, vous avez une exploitation boisée qui permet d'alimenter les villes. Les villes pour du bois de chauffe, pour du bois pour la construction navale, pour du bois aussi pour les artisans. Et donc ce bois est transporté par voie d'eau. Et il y a tout un commerce du bois qui se fait entre les zones d'exploitation du bois et les zones de consommation du bois.
Le train de bois, c'est du bois qui flotte.
Voilà, c'est cela, oui.
Et avant, il est descendu des montagnes, des pentes des Vosges par schlitage.
Oui, alors évidemment, quand il n'y a pas de voie d'eau, on trouve d'autres solutions. Alors, faire glisser un traîneau de bois par schlitage, c'est une de ces autres solutions. Simplement, les massifs les plus isolés, qui n'ont pas trop de moyens de communication, sont quand même les moins exploités. On a surtout exploité les massifs qui permettaient de transporter ces bois, qui sont quand même une matière lourde.
On n'a pas parlé non plus des débuts de la métallurgie, le bas fourneau à charbon de bois, le haut fourneau. Le premier haut fourneau à charbon de bois, le seigneur peut d'ailleurs parfois avoir une activité industrielle. C'est arrivé en France beaucoup plus qu'on ne l'imagine.
Oui, toute l'activité artisanale et industrielle et pour la métallurgie est liée au bois de chauffe et au charbon de bois. Avant l'utilisation d'énergies fossiles, et notamment du charbon, eh bien, cette énergie, c'est le bois. En fait, le bois, c'est un peu pour ces périodes pré-industrielles, c'est un peu le pétrole, équivaut au pétrole de nos jours. Il a cette importance pour tous les domaines de la vie, en fait.
Mais pendant ce temps-là, 18e siècle, la pression démographique augmente aussi dans les villages, d'où la multiplication des conflits d'usage. Ceux qui sont à la bordure des bois voudraient bien pouvoir ramasser le bois, faire paître leurs bêtes dans les bois. C'est une des causes, on le sait bien, de la Révolution française. Alors on en arrive à la nuit de l'abolition des privilèges. Nous sommes le 4 août 1789 à l'Assemblée nationale.
Ce n'est pas une constitution que nous ont demandé les communes, mais la suppression ou la transformation des droits seigneuriaux. La suppression des corvées et des servitudes.
Je sollicite l'abandon pur et simple des privilèges ecclésiastiques.
Et moi, je demande l'abolition du droit. droits exclusifs de Colombier. Comme le poète Catulle, je regrette de n'offrir un sacrifice qu'un moineau.
Je propose la suppression du droit exclusif de chasse.
Bravo !
L'abolition des privilèges, Martine Chelvet, ça chauffe plutôt les conflits que ça n'apporte de solution.
On peut voir les choses sous ce point de vue, mais tout de même, l'espace boisé était devenu un espace de distinction sociale et les roturiers étaient exclus de certains droits. Seuls les nobles avaient le privilège de chasser, d'exploiter leur futaie. Et avec l'abolition des privilèges, ces questions sont reposées de manière différente. Alors certes, il y a l'abolition donc de ces distinctions, mais justement, il faut repenser un nouveau mode de gestion des bois, mettre en place de nouvelles législations, et donc cela va faire naître de nombreux débats. Ceci dit, les problèmes de concurrence des usages, les problèmes même d'incompatibilité de l'exploitation des bois demeurent et il reste, pour encadrer l'exploitation des ruraux, des droits d'usage, il reste des contraintes justement sur l'accès au bois et les prélèvements de bois.
Nouvelle législation, c'est là que va s'esquisser la distinction dont vous parliez tout à l'heure, Martine Chelvet, entre les forêts nationales, domaniales, les forêts communales et la forêt privée, qui d'ailleurs reste en France très, très, très largement majoritaire, qui est très importante au lendemain de la Révolution, à tel point que dans la multiplication des conflits d'usage que voit la période pré-révolutionnaire, même impériale, et la restauration, on voit des actes inouïs, insensés, dit l'administration, qui se mettent en place. Jacoule Croquant, c'est un feuilleton bien connu, Stelvio Lorenzi, 1969, le jeune homme, pour venger les humiliations que son père a connu du fait du comte du propriétaire de la forêt, eh bien, il y met le feu.
Les flammes me fascinaient, je ne pouvais partir. Au travers d'elles, il me semblait que mon père me remerciait d'avoir agi ainsi. Une joie intense s'empara de moi. J'avais réussi. La forêt de Lerme brûla bientôt sur une lieue de largeur. Je ne pouvais en détacher les yeux. La fumée chassée par le vent découvrait les flammes qui s'avançaient rapidement, dévorant tout sur leur passage. La forêt brûla toute la nuit. Avant le lever du jour, il ne restait plus que quelques brasiers disséminés, çà et là.
Jacoule Croquant nous montre là quand même une image idéalisée de la forêt et une image aussi idéalisée des paysans. C'est un roman qui évoque plus la vision, la représentation de l'auteur qui est Eugène Leroy et qui exprime son inquiétude face à la disparition des paysans, à la disparition de leur mode de vie et montre une forêt idéale, celle qui est le symbole de la liberté, celle qui est le symbole de la beauté. Et justement, il nous montre, à travers son propre regard, ce qu'il pense être la représentation des paysans, c'est-à-dire que selon lui, l'espace forestier a été confisqué au profit de l'exploitation du seigneur, et que cet encadrement des usages, cet encadrement de l'exploitation boisée pour les paysans provoque des révoltes, des incendies. Incendie contre le symbole, justement, des privilèges, le symbole des injustices, qui est le château, qui est la forêt.
Le château et la forêt du comte. Eugène Leroy, de son état, est percepteur, et donc il est du côté des populations insensées. Il n'est pas administrateur de l'administration des eaux et forêts, qui se met en place, administration censée contre les populations insensées, justement au moment de Jacoule Croquant, mis en place par Napoléon, et puis surtout pendant la Restauration, l'école de Nancy qui forme les employés des eaux et forêts, le code forestier. Qu'est-ce que c'est l'administration des eaux et forêts ?
Après la Révolution, on a évoqué tous ces débats quel mode de gestion mettre en place pour la forêt. Est-ce que l'on va arrêter de contrôler cette exploitation boisée ? Mais vu les enjeux économiques, stratégiques et même militaires de l'exploitation des bois, l'État ne peut pas se permettre de laisser l'exploitation de la forêt totalement libre. Une administration hiérarchisée, centralisée est créée, comme vous l'avez dit, à partir de 1801. Et donc, c'est l'administration des eaux et forêts qui est chargée de faire appliquer le code forestier et de faire donc une sorte de police des bois. Ceci dit, l'administration n'a pas que ce rôle-là. Avec la sylviculture, une nouvelle discipline enseignée à l'école de Nancy, les forestiers sont aussi désormais chargés d'exploiter les bois, de les aménager et de les protéger. Notamment, après les lois sur le reboisement des terrains de montagne, ils ont un rôle nouveau qui est un rôle de protection des forêts.
Oui, ben, avant de parler de protection, parlons abattage et régénération. Alors, c'est une administration qui a foi dans la technique et la science. Vous-même, vous enseignez à l'Université de la Méditerranée pour des étudiants qui font à la fois des mathématiques et de l'histoire. C'est un petit peu le cas des gens de l'administration des eaux et forêts. Ils manient les statistiques.
L'administration des eaux et forêts a une formation assez pluridisciplinaire. Ils font à la fois des mathématiques, mais ils font aussi de la sylviculture, de la botanique, de l'histoire, de l'anthropologie. Alors, il y a aussi un aspect dans leur rôle, c'est de faire des inventaires, et vous avez tout à fait raison, ils font des statistiques. Alors, ces statistiques sont pas toujours facile à employer pour l'historien, puisque elles ont évolué, les définitions ont évolué, les modes d'inventaire ont évolué, mais en effet, il y a des statistiques.
Chut. Écoutez les arbres qu'on abat.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Alors, statistique des arbres qu'on abat, statistique des arbres qu'on plante. Expliquez-nous le jeu de balance des eaux et forêts entre la régénération naturelle et la régénération artificielle, Martine Chalvet.
La nouvelle discipline, la sylviculture, donne naissance un petit peu à des écoles de pensée différentes. Vous avez d'un côté l'école allemande qui est favorable à une régénération par coupe rase avec la mise en place de plantations d'arbres qui auraient le même âge et qui viendraient de la même essence. Et puis, de l'autre côté, vous avez le modèle français avec plutôt l'idée du directeur des eaux et forêts, de l'école des eaux et forêts, Parade, imiter la nature et hâter son œuvre. Donc le modèle forestier français, c'est plutôt opposé à ces coupes rases et à prôner une régénération naturelle pour transformer les taillis en taillis sous futaie, puis en futaie.
Ce qui est formidable, c'est qu'avec les eaux et forêts, une fois les arbres abattus, on continue toujours la logique de la science positiviste à les observer de très près. À la Radio Nationale, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait encore des délégués des eaux et forêts qui tenaient la chronique forestière dans la chronique agricole.
Veuillez écouter la chronique agricole présentée par Raymond Cherrier.
Au titre de notre chronique forestière, nous vous parlerons aujourd'hui des échauffures des bois abattus. On désigne habituellement sous le nom d'échauffures des altérations des bois en grumes se manifestant par des anomalies de coloration du bois. Chez le hêtre, le bois présente des taches blanches cernées d'un liseré noirâtre, généralement allongées dans le sens du fil du bois. Chez les résineux, apparaissent des taches rougeâtres formant des flammes rayonnant à partir du centre des découpes. Chez le frêne, le bois perd son éclat nacré normal et prend un aspect terne, une nuance brun-rougeâtre. Cette modification attire moins l'attention que les taches des autres échauffures. Toutes ces altérations sont dues à des champignons dont les spores germent sur les surfaces mises à nu par l'exploitation, découpe d'abattage et débranchage, arrachement de l'écorce.
Etc, etc. C'est très impressionnant, Martine Chalvet, le vocabulaire technique des eaux et forêts. À quoi ceux qui polémiquent avec les eaux et forêts disent ils ne tiennent pas compte des contextes naturels régionaux, et puis derrière leur appareil technique, il y a surtout la volonté de construire d'immenses cathédrales de résineux. Il y a toujours eu cette polémique tout au long du 19e siècle avec les eaux et forêts.
Cette polémique s'est surtout amplifiée, je dirais, au XXe siècle. Après la réforme d'Edgar Pisani en 1965, la création de l'Office national des forêts, qui était chargé d'encourager des reboisements artificiels, une sylviculture industrielle, et donc d'utiliser des moyens de production modernes, la mécanisation de l'exploitation, les pesticides, les engrais. Et cette orientation a été beaucoup critiquée, notamment par la presse, par des hommes politiques comme François Mitterrand, par exemple, par des intellectuels qui se sont attaqués à cette exploitation productive des bois et ils ont dénoncé les conséquences, notamment l'acidification des sols, la transformation des paysages. Et l'ONF avait même été qualifié à un moment d'office nuisible des forêts.
Chez ces héritiers de la Seconde Guerre mondiale, c'est souvent après les guerres que les réflexions s'accélèrent. Donc il y a le courant productiviste, rationalisateur, que vous venez de décrire, et puis il y a un courant qui puise très profond dans le pré-écologisme de la fin du XVIIIe siècle, et puis qui arrive à éclosion après la Deuxième Guerre mondiale. Allez, c'est un bonheur d'écouter les archives de la Radio Nationale quand elles traitent de nature. Ici, nous sommes en 1948, on vient de constituer à Fontainebleau l'idée d'une forêt réserve, sanctuaire, qu'on ne toucherait plus, et ça provoque une discussion à la Tribune de Paris.
Tribune de Paris.
Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
Convoquée par le gouvernement français et l'UNESCO, une conférence internationale de protection de la nature s'ouvrira demain au palais de Fontainebleau.
Pourquoi et contre quoi convient-il de protéger la nature ?
Auguste Houdin, vous permettrez aux forestiers de considérer que le terme de réserve artistique qui a quelquefois été employé est un terme inexact. Il s'agit de conserver dans le meilleur état possible de végétation des peuplements qui font actuellement notre admiration. Mais pour les conserver, est-il bien nécessaire d'empêcher aux techniciens de venir se débarrasser des arbres qui actuellement vont devenir dépérissants, qui vont devenir la proie des insectes ou la proie des champignons. Il me semble qu'au contraire, le forestier devrait se donner pour rôle d'intervenir au maximum de façon à perpétuer le plus longtemps possible l'état particulièrement admirable de telle ou telle espèce de peuplement.
Comment des réserves qu'on ne pourrait pas toucher, dit le forestier. Vous avez vu la manière dont il traite ces réserves. Il les appelle des réserves artistiques, alors qu'on dirait aujourd'hui des réserves écologiques. Mais le forestier considère que c'est un point de vue esthétique que celui des pré-écologistes.
Au XIXe siècle, c'est surtout ce point de vue qui prévalait, le point de vue esthétique. D'ailleurs, la réserve de Fontainebleau a déjà été défendue par les artistes. Et il y a tout un courant de protection des forêts pour des raisons esthétiques, de protection des paysages qui remontent un petit peu loin dans le temps. Et au XIXe siècle, ce courant touche les artistes, les scientifiques et puis tous ceux qui ont été marqués par le courant romantique. Il y a également une extension de ce courant avec le développement de nouvelles pratiques sociales, l'idée de se promener dans les bois, par exemple. Eh bien, avec ces nouvelles pratiques sociales d'usage des bois, eh bien, ces idées se développent à toutes les catégories sociales dans le contexte de la démocratisation.
Oui, mais c'est un changement beaucoup plus profond, en fait, qui se perd et que vous racontez à la fin de votre histoire des forêts, le livre que vous publiez pour l'année internationale des forêts aux éditions du Seuil. Martine Chelvet, avant on disait que l'arbre fournissait ce qu'il fallait pour nos vies, et maintenant, eh bien l'arbre c'est la vie.
Oui, il y a un changement dans les perceptions du bois, dans les perceptions de l'arbre. D'ailleurs, on pourrait voir une évolution du vocabulaire. On parle de bois, et puis maintenant on parle essentiellement de forêt. L'évolution, ce serait que, en fait, les bois ne sont plus vus comme un potentiel inépuisable, sans cesse renouvelable, donc il faut les protéger. Il y a un changement dans la conception aussi entre le rapport de l'homme et la nature. Déboiser, c'est vu maintenant comme une œuvre de destruction. Or, l'homme se voit comme responsable de la nature pour les générations futures. Donc finalement, dans nos conceptions actuelles, on n'est plus dans l'idée que l'arbre, c'est un potentiel à exploiter, mais la forêt devient un espace de de nature sauvage à préserver et à surtout protéger de l'exploitation des aménagements des hommes.
Alors les géographes, vous n'êtes pas géographe, les géographes n'aiment pas l'expression la forêt, poumon de l'humanité. L'idée de poumon de l'humanité, c'est venu comment et c'est maintenant dominant?
Cette idée est liée aux évolutions scientifiques au XIXe siècle. On comprend hein, les échanges chlorophylliens. Et puis aussi, vous avez tout le courant de l'hygiène dans les villes au XIXe siècle. Et l'on pense de plus en plus que l'arbre amène justement une atmosphère pure, que l'arbre permet de purifier l'atmosphère. Cette idée est une idée très symbolique aussi, hein, très forte, et c'est sûrement ce qui explique qu'elle se soit répandue avec tant de facilité.
Et du coup, on hésite maintenant à toucher à l'arbre. Ici, pour finir, Pierre Bachelet, grand chanteur devant l'Éternel, évoque les chênes de Troncet, grande forêt française, devant l'Éternel, puisque l'on fréquentait le maréchal Pétain, François Mitterrand, et combien d'autres, la forêt de Troncet, qui, au moment de la grande réformation de Colbert, avait été le modèle de l'exploitation moderne et rationnelle. Hein, puisque ça servait à quoi, les chênes de Troncet? Ça servait aux bateaux, aux galères, non?
Oui. La protection en fait de ces bois était liée à la volonté d'avoir des longs fûts de bois pour pouvoir construire des bateaux avec des tonnages de plus en plus importants.
De l'utile au sacré, ça pourrait être le sous-titre de votre livre, Martine Chalvet.
Planté sur l'ordre de Colbert, dans une forêt des Charentes, mes hautes branches voient la mer. Et c'est la terre qui me hante. Et ceux qui sont venus hier étaient des gens patibulaires. C'étaient d'étranges arpenteurs. Je suis un chêne qui a peur. Mais entend-il seulement ma voix, ce petit ingénieur pédant qui me condamne d'une croix pour une affaire d'alignement? La route peut faire un détour. Laissez-moi vivre encore un peu. Laissez-moi vivre un siècle ou deux.
Laissez-les vivre, les chênes de Troncet, sur notre site. Toutes les références, notamment celles relatives au groupe d'histoire de la forêt française auquel vous participez, qu'a initié une autre grande chercheuse qui est André Corvol. Sur notre site aussi, la possibilité de s'abonner à la marche de l'histoire. Avec toujours la même équipe, Camille Poux-Jalaguier, Franck Olivard, Frédéric Martin, Jacques Sigal, qui appartient à la France chaude. Et puis à la technique aujourd'hui, Grégory Simon, dont vous apercevez Martine Chalvet, qu'il appartient à la France chevelue.